Et c'est donc parti depuis hier pour la COP25, la nouvelle conférence des Nations Unies sur le climat qui a ouvert à Madrid. Les pays signataires de l'accord de Paris sont donc réunis jusqu'au 13 décembre pour tenter d'assurer la mise en place de cet accord, décidé, vous le savez, en 2015, en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre, afin de contenir le réchauffement sous le seuil de 2 degrés. Notre invitée est l'économiste Céline Guivarch, membre du Haut Conseil français pour le climat. On voit avec elle où nous en sommes, 4 ans donc après l'accord de Paris, dans un contexte où les scientifiques commencent à se demander si la planète est proche du point de basculement. Vos questions à Céline Guivarch sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Camille Cronier, bonjour.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Et donc nous repasserons au vert avec vous dans quelques minutes.
Oui, je vais vous parler de l'absence d'Emmanuel Macron à cette COP25.
Dans la deuxième demi-heure, le reportage de la semaine nous emmènera au Cameroun avec vous, Célia Kigré, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Et le sujet ?
Le Cameroun, qui a décidé de planter 2 millions d'arbres par an pour sauver sa forêt. Il n'y a pas que l'industrie du bois qui compte dans ce pays. L'école des eaux et forêts, par exemple, vit en ce moment une petite révolution.
Premier épisode donc tout à l'heure avec vous. Et puis enfin, notre invitée découverte est la journaliste Marie-Dominique Robin pour un documentaire Nouvelle Cordée. L'histoire de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, lancée dans l'agglomération de Mauléon, dans les Deux-Sèvres, en 2015. Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï avec à la technique Selim Guéribi.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
Ce que nous déciderons ici montrera si nous choisissons l'espoir ou la capitulation face au changement climatique. Et rappelez-vous que nous nous sommes engagés devant le monde entier avec l'accord de Paris et que c'était une promesse solennelle. Ouvrons nos oreilles à tous ceux qui demandent du changement. Ouvrons nos yeux sur les menaces imminentes que nous avons à affronter. Ouvrons nos esprits à ce que nous dit la science unanimement. Il n'y a plus de raison de retarder notre action. Ce serait une trahison pour l'humanité tout entière et les générations à venir. Will be a betrayal of our entire human family
and all the generations to come. Et c'était donc hier à Madrid le discours d'ouverture de la COP25 du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Bonjour Céline Guivarch.
Bonjour Mathieu Vidard.
Merci d'être avec nous. Vous êtes donc économiste au CIRED, c'est le Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Et vous êtes donc membre du Haut Conseil français pour le climat. 196 pays donc réunis à Madrid depuis hier afin de relever les ambitions climatiques et tenter d'enrayer le dérèglement. La pression est très forte actuellement sur les États, pression citoyenne, pression également liée au dérèglement en cours avec les effets qui sont de plus en plus visibles et les publications scientifiques qui se poursuivent. Donc il y a un contexte tout à fait particulier là en ce moment.
Oui, je pense qu'il y a un contexte de prise de conscience que nous sommes bel et bien en train de vivre un changement climatique accéléré. Une prise de conscience que ce changement climatique est dû aux émissions de gaz à effet de serre, dû aux activités humaines. Et une prise de conscience que si on fait rien, les conséquences sont très sérieuses.
C'est simple à comprendre pourtant, non ? Le pitch comme ça, il est très clair.
Le pitch est très clair. Maintenant, le diagnostic, il est aussi clair. Ce que nous disent les différents rapports, dont les synthèses du GIEC, c'est que si on veut respecter les engagements de long terme qu'on a pris, donc de contenir l'augmentation de la température moyenne mondiale bien en dessous de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, il faut que les émissions mondiales, elles, baissent immédiatement, rapidement, et qu'elles atteignent une neutralité carbone en quelques décennies.
2050 pour la France, ça c'est l'objectif, en tout cas pour notre pays.
Alors la France effectivement a ses données pour objectif d'atteindre un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et les absorptions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça qu'on appelle la neutralité,
le zéro carbone.
Ça concerne en réalité toutes les émissions de gaz à effet de serre, pas seulement le CO2, le dioxyde de carbone, mais aussi en fait le méthane, le protoxyde d'azote, etc. Donc l'objectif que la France s'est donné, c'est d'atteindre cette neutralité, tout gaz à effet de serre, à l'horizon 2050.
Céline Guivarch, on apprenait ce matin de la part de l'ONU justement que les décennies 2010-2019 est la plus chaude jamais enregistrée dans le monde et que l'année 2019 va s'inscrire parmi les 3 années les plus chaudes enregistrées depuis 1850, date à laquelle ont débuté les relevés systématiques de température. On a l'impression ces dernières années d'entendre systématiquement la même chose. Les années se suivent donc et sont de plus en plus chaudes. Au rythme actuel, la température pourrait grimper jusqu'à 4 ou 5 degrés d'ici à la fin du siècle. Une réaction sur cette nouvelle analyse de la décennie, parce que maintenant on parle en décennie.
Le climat, effectivement, c'est pas les variations du temps qui fait d'une année sur l'autre, hein, c'est les évolutions de long
sur
terme.
Le temps long.
Et donc c'est pas il fait froid donc aujourd'hui.
Vous voyez, le réchauffement climatique n'existait pas. Hein, ouais.
C'est pas de ça qu'on parle. Et effectivement, il y a une tendance à la hausse qui est extrêmement claire aujourd'hui. On parle de l'objectif de plus de limiter l'augmentation de la température. Plus 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle. Rappelons peut-être qu'aujourd'hui, on est à peu près à plus 1 degré par rapport à cette même référence de l'ère pré-industrielle. Et c'est ça qu'on voit. Et donc, les années battent des records, ou les mois battent des records de chaleur. Il peut y avoir, dû à la variabilité interannuelle, des années plus fraîches ou des mois plus frais dans certains endroits. Mais cette tendance à la hausse se confirme.
Juste une parenthèse, de quoi s'occupe un économiste ou une économiste comme vous concernant le dossier climatique ?
En fait, on va regarder deux éléments. D'un côté, on va regarder la traduction en termes économiques des effets, des impacts du changement climatique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire pour nos sociétés, pour nos activités, pour nos économies, la montée du niveau de la mer, l'augmentation de la fréquence des événements extrêmes, etc. Donc, ça, c'est le côté impact, vulnérabilité au changement climatique. Et puis, de l'autre côté, on va regarder les trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce qu'on va appeler l'atténuation du changement climatique, pour limiter l'ampleur en fait du changement climatique et les implications économiques de ces trajectoires-là à l'échelle mondiale, à l'échelle nationale ou même à des échelles plus locales.
Donc c'est important que des économistes aussi s'intéressent à ce gros dossier climatique.
Oui, il me semble que, puisque c'est bien les activités humaines, les façons dont on produit les biens, les choix de consommation, les façons dont on organise nos villes, dont on se déplace, dont on se chauffe, et ces activités-là ont une part économique.
Alors Céline Guivarche, où en est-on aujourd'hui des accords de Paris ? Parce qu'on en a beaucoup entendu parler au moment de leur signature, donc en 2015. Ça fixe le régime international d'action des États pour lutter contre le changement. Ça va commencer véritablement à partir de début 2020. Donc qu'est-ce que ça signifie concrètement ?
Donc effectivement, les accords de Paris ont été signés à la COP qui a eu lieu à Paris en 2015. Il a été ratifié par la majorité des États et est rentré déjà en vigueur, mais il régit le système international de réaction face au changement climatique à partir de 2020. Et en particulier, il met en place un système qu'on appelle les contributions nationales, où chaque pays met sur la table finalement ce qu'il est prêt à faire face au changement climatique. La plupart l'ont annoncé pour l'horizon 2030. Ce qu'on est en train de négocier depuis la signature de l'accord de Paris, qui donne vraiment un cadre général, mais qui n'est pas allé rentrer dans les détails finalement de toutes les questions techniques de la mise en place de ce cadre-là. Et c'est ça qui est en train d'être fini de négocier actuellement.
À Madrid, oui, c'est ça.
Madrid.
Ouais. Et il y aura Glasgow donc l'année prochaine, qui sera une autre COP très très importante aussi pour la suite des choses.
Oui, je pense que alors bien sûr, déjà aujourd'hui, la toile de fond des négociations, c'est le besoin de revoir à la hausse l'ambition des contributions qui ont été mises sur la table, hein, parce qu'il y a, elles ne sont pas cohérentes avec l'objectif de long terme qu'on s'est donné, et donc il y a besoin de revoir leur ambition à la hausse. Donc ça, c'est la toile de fond générale. Néanmoins, la COP qui a lieu en ce moment à Madrid est plus sur des détails plus techniques des règlements, et notamment comment éviter des doubles comptes dans les façons dont les États coopèrent pour réduire leurs émissions. Et toute l'année 2020 va être plus politique, et la COP qui va clore l'année précisément sur cette question de l'augmentation de l'ambition.
Un focus sur la France peut-être, Céline Guivarch, pour voir comment s'inscrit notre pays finalement dans ces ambitions drastiques et nécessaires dont on parle pour relever justement les enjeux climatiques. Comment est-ce qu'on pourrait résumer finalement la position du pays ?
Alors, donc la France a pris un engagement d'atteindre la neutralité à l'horizon 2050. C'est un engagement qui est ambitieux. Les émissions françaises, elles sont grosso modo en baisse depuis les années 70. Elles ont baissé de 19% par rapport à leur niveau de 1990. Mmh. Par contre, par rapport à la trajectoire qu'on s'était fixée pour atteindre la neutralité en 2050, on a manqué la première marche de cette trajectoire-là. Sur les dernières années, on avait pour l'ambition que les émissions se réduisent de 1,9% par an. Elles se sont réduites de 1,1% par an. Donc, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu qu'on s'est fixé. Néanmoins, il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en place.
Et le Haut Conseil pour le climat l'avait signalé en juin dernier, justement, sur les mesures mises en place qui ne sont pas justement à la hauteur des ambitions et de cette trajectoire fixée par l'accord de Paris. On se retrouve dans un instant, Céline Guivarch, je vous répondrai également au message des auditeurs, donc concernant évidemment cette actualité climatique chargée à l'occasion de la COP25 en ce moment à Madrid, pour nous retrouver les réseaux sociaux et franceinter.fr. A tout de suite.
France Inter. La Terre au carré.
On reste à Madrid avec vous, Camille Cronier, pour cette COP25 qui joue un peu de malchance d'ailleurs.
Oui, j'irais même jusqu'à dire qu'elle a le seum, Mathieu. Hein, la poisse, la guigne, vous savez déjà qu'au départ, elle devait avoir lieu à Santiago, au Chili, mais le pays a dû renoncer fin octobre à cause d'une violente crise sociale. On est passé à deux doigts de l'annulation avant que Madrid donc ne se propose pour accueillir les 29 000 participants au pied levé. Hop, on change de continent. Du coup, je sais que vous avez envie de savoir,
oui.
Greta Thunberg a repris un bateau dans l'autre sens pour traverser l'Atlantique et elle est en train d'arriver. Regardez, je suis sur mon téléphone là, c'est le son de son bateau qui est en train d'arriver à Lisbonne.
On voit le pont de Lisbonne.
Juste
hein.
Sous le pont, voilà, ouais. Dans quelques instants. Puis ensuite, il lui restera 600 km en gros jusqu'à la capitale espagnole. Donc, premier point, une COP25 repêchée de justesse que même Laurent Fabius, ancien président de la COP à Paris, a du mal à qualifier. Écoutez comment il en parlait ce matin chez nos confrères de RTL.
La COP là, 25, celle de Madrid.
Oui, la COP là, hein, le truc en Espagne dont tout le monde a l'air de se tamponner, pardonnez-moi l'expression. Laurent Fabius résume.
Il y a des COP qui sont des COP de décision, celle de Paris était l'une de celles-là. Il y a d'autres COP qui sont plutôt des COP de transition. Et je range la COP de Madrid parmi les COP de transition.
Voilà, un rendez-vous intermédiaire, hein. C'est un peu ce que vous disiez d'ailleurs, Céline Guivarch, d'où rien de spectaculaire ne devrait sortir, car en fait, à part Kyoto en 97 et Paris donc en 2015, les autres COP ont un petit côté obscur ou invisible. Mathieu, par exemple, est-ce que vous savez où ont eu lieu et ce qu'ont donné les COP 22, 23,
oh là là
24
là. La question. Il y a une polonaise, il y a une COP polonaise il n'y a pas longtemps.
Alors l'an dernier, ouais, voilà, c'était en Pologne à Katowice, en 2017
merci.
À Bonn, en 2016 à Marrakech. Alors,
Marrakech, voilà, merci Céline
Guivarch. Vous faites souffler les réponses. On est une majorité à ne pas savoir puisqu'elles passent vraiment sous les radars, ces COP. Ça nous mène donc au deuxième point. On ne sait pas vraiment à quoi servent ces conférences des partis. Et la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, le reconnaît.
Je pense qu'on ne sait pas toujours ce que c'est que ces COP. Ça paraît un peu des réunions dont on ne perçoit pas forcément l'intérêt qu'elles ont. Mais en tout cas, c'est des moments importants qui n'ont peut-être pas la même visibilité que d'autres événements, mais qui ont vraiment tout leur rôle.
D'ailleurs, Emmanuel Macron l'avait dit ça à la tribune de l'ONU en septembre dernier, quand c'était encore prévu à Santiago.
La COP25 au Chili, puis la COP26 qui se tiendra en Europe, seront des rendez-vous décisifs.
Ben, sauf que là, il n'est pas au rendez-vous, le président de la République, Camille.
Non, rendez-vous décisif, dit-il, que le champion de la Terre, hashtag Make Our Planet Great Again, a zappé.
Bonjour, nous sommes ce matin à Madrid avec Brune Poirson, la secrétaire d'État à la transition écologique, pour représenter la France au lancement de cette COP25.
Voilà, c'est le Premier ministre Édouard Philippe qui a été envoyé hier matin. Une rustine diplomatique, selon Greenpeace, qui écrit dans un communiqué que l'absence du président est, je cite, un signal négatif quant à l'ambition française en matière de lutte globale contre le changement climatique. L'Élysée avait fait savoir il y a 10 jours qu'Emmanuel Macron allégeait son agenda international face au mur de la grève du 5 décembre. Contre contredisant donc au passage cette phrase prononcée début octobre à Rodez par le président sur l'écologie.
C'est au moins aussi important que les retraites et pour moi c'est très important.
Voilà, mais donc sacrifié hein, la COP de Madrid. J'ai voulu avoir des précisions du côté des ministres. Elisabeth Borne d'abord, elle y sera lundi.
Je peux vous assurer qu'on est tous mobilisés, que le président de la République se bat à chacune de ses rencontres internationales.
Mais le fait qu'il n'aille pas à la COP 25, pardon, ça montre que bon, c'est important, mais pas assez pour que j'y aille.
Écoutez, je peux vous dire que le gouvernement sera représenté au plus haut niveau à cette COP 25 et que le président de la République, vraiment, il est mobilisé à fond.
À fond, mais de loin. J'ai demandé aussi au ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, quelle image cette absence renvoyait alors que la France est garante des accords de Paris.
Je trouve que votre question, si je peux me permettre, est déplacée. Pourquoi ? Pourquoi il ne va pas à la COP à Madrid ? Vous savez pourquoi ?
Parce qu'il y a les retraites. Donc
non,
les retraites...
pas du tout. Pas du tout. Voilà. Parce qu'il y a un hommage aux 13 soldats morts aux Invalides.
Alors c'est bien tenté, mais l'annonce de l'absence d'Emmanuel Macron avait été faite avant le décès des soldats. Et pour info, Édouard Philippe était à l'hommage hier, hein, après son aller-retour à Madrid. Donc ça n'a rien à voir. La question, c'est juste, est-ce que l'environnement est une vraie priorité ou passe-t-il à la trappe au moindre événement plus national, disons, le reléguant en bel affichage. Dernière tentative avec la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.
Je vois pas le sens de votre question. Est-ce que votre question...
Il sera absent de la COP 25 alors que l'environnement... Et encore aujourd'hui, l'ONU alerte sur les émissions de gaz à effet de serre. C'est un vrai enjeu et un vrai problème aujourd'hui.
Est-ce que vous mesurez ce que le président de la République, ce dont il est à l'initiative en France pour des réalisations concrètes sur notre territoire? Si vous vous essayez de me faire dire je ne sais quoi sur la présence du président de la République, en fait, c'est d'une part très désagréable dans votre manière de faire, je vous le dis tout net, et d'autre part, le président de la République, je ne crois pas qu'on puisse lui dénier dans les réalisations du gouvernement qu'il a l'honneur de diriger en France, qu'il soit très en retard sur les questions écologiques. Je vous remercie.
Merci beaucoup.
Et franchement, non, mais la prochaine fois, je vous répondrai pas.
Non, mais
et
j'essaie.
Ah, cette manie que j'ai de parler par-dessus, moi, je me plaindrai à France Inter,
ah,
me dit la porte-parole du gouvernement. Interdiction de remettre en question l'image, la volonté affichée par le président en matière d'environnement. En voilà un beau symbole en attendant, Mathieu, puisque je sais que c'est ça qui vous intéresse. Greta Thunberg vient juste d'arriver au port de Lisbonne. Regardez son catamaran.
Elle a accosté, ça y est.
Vient d'accoster à l'instant.
Est-ce qu'elle a posé le premier pied?
Non, pas encore.
En tout cas, elle se rendra à Madrid dans les prochaines heures. Camille Passevert, c'est évidemment à réécouter sur France Inter.
Céline Guivarch, vous êtes donc membre du Haut Conseil pour le Climat, indépendant mais placé sous l'autorité du Premier ministre. On le rappelle, vous avez été nommée par décret. Comment vous la qualifieriez, cette absence d'Emmanuel Macron à la COP 25?
Réflexion de Céline Guivarch, qui se demande comment elle va répondre à votre question impertinente.
Comment vais-je répondre à cette question? Je ne sais pas comment je vais répondre à cette question.
Elle vous embête, cette question ?
Elle m'embête, cette question. J'ai pas forcément un avis personnel sur cette question. C'est symboliquement...
Mais un avis d'experte, hein, vous êtes ici pour ça.
Oui, c'est symboliquement un mauvais signal, évidemment. Ce que j'aimerais plutôt rappeler, c'est de se dire que ces conférences des partis, c'est des négociations internationales. Pour créer de la coopération, on est face à un problème global. Et effectivement, on a besoin de coopération entre les pays. Mais les réductions d'émissions de gaz à effet de serre, les actions, elles ont lieu à des échelles beaucoup plus locales, nationalement, et même très localement. Et faut pas en attendre trop non plus de ces conférences. Des partis, puisque les actions, elles sont bien dans les territoires.
Donc elles ne servent à rien ?
Non, elles ne servent pas à rien. Elles servent à mettre en place la coopération dont on a besoin autour des grands sujets, parce que les pays sont tous responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais différemment. Hein. Il y a des pays qui ont des émissions très élevées, qui historiquement ont eu des émissions très élevées. Les vieux pays, aujourd'hui riches, industrialisés, il y a des pays qui ont beaucoup moins contribué, mais qui sont très vulnérables. Et donc, on a bien sûr besoin de coopération internationale sur le sujet du changement climatique.
C'est terrible, finalement, ce que vous dites, parce qu'il y a une sorte de résignation quant à l'action possible des États, parce que le local, c'est bien, mais on sait bien que ça n'est pas suffisant, et que si les États ne se mobilisent pas et, justement, décident d'entamer des actions drastiques, on n'arrivera à rien. Et ça devrait servir à ça, quand même, ces COP.
Mais les décisions des actions, elles sont à l'échelle nationale.
Et international, c'est une échelle globale. C'est-à-dire que si le monde entier s'y met pas, il n'y a rien qui change. Le système dont on parle.
Tout, tout à fait. Mais c'est une articulation entre les choses. Je pense qu'il ne faut pas non plus se dire « Ah, on va se mettre d'accord sur un objectif à l'échelle internationale et par miracle, tout va se passer. Les actions, elles ont bien lieu nationalement et faut pas l'oublier. »
Et vous rappeliez tout à l'heure qu'en France, on a observé quand même une baisse des émissions de gaz à effet de serre.
Tout à fait. C'est aussi un résultat. On a une baisse des émissions, pas aussi rapide que ce qu'elle devrait être.
Mais dans le contexte global, c'est plutôt pas mal, on va dire. Allez, Céline Guivarch, on se retrouve dans un instant avec les messages des auditeurs. Franceinter.fr sur le site de la Terre au Carré.
Nasci menina na cidade grande, a maior da América do Sul. Comi hambúrguer, via filme gringo, falava inglês e ouvia blan. Um belo dia já adolescente, no remelejo conheci forró. E desde então é coração saudade. Foi meu primeiro amor. Até hoje eu danço esse calor. Foi meu primeiro amor. Foi. E até hoje eu danço esse calor.
De son dernier album, c'était Lucas Santana.
La Terre au Carré, le magazine de l'environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
L'économiste Céline Guivarch avec nous, membre du Haut Conseil français pour le climat, à l'occasion donc du démarrage de la COP25 à Madrid. Et sur la question du climat, beaucoup de messages des auditeurs. C'est plutôt intéressant d'ailleurs de constater à quel point ces sujets intéressent aussi aujourd'hui.
Si on peut avoir un peu d'espoir, peut-être qu'il vient de là.
Ouais. Et donc c'est une façon aussi de faire pression sur les États en ce moment. Denis, par téléphone, demande pourquoi est-ce que les banques continuent de financer les énergies fossiles ?
Effectivement, les banques, dont les banques françaises, continuent à financer les énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz, alors qu'on sait que l'exploitation de ces trois énergies doit diminuer. Pourquoi elle continue à le faire? Sans doute parce que ça reste rentable.
C'est là que la société a un levier, justement, actionné?
Alors, la société, les régulations, le régulateur, évidemment. Donc, on peut, en tant que consommateur de produits bancaires, réclamer à nos banques de savoir ce qui est fait de l'argent. Ça, c'est un des leviers qu'on a. Et bien sûr, la puissance publique, le régulateur, a aussi un levier sur cette question-là.
À ce sujet, Florence demande comment va-t-on mettre le climat en premier et pas l'argent, justement. Il y a une opposition claire entre les deux. Y a-t-il des personnes qui travaillent sur de nouveaux modèles de société, notamment économiques? Céline Guivarch.
Oh, c'est une vaste question. Je ne sais pas comment répondre en quelques minutes. Mais c'est vrai qu'il faut rappeler que ces émissions de gaz à effet de serre, elles viennent de toutes nos activités. Et c'est bien une transition de tous les grands systèmes dont on a besoin, les systèmes énergétiques, mais aussi les systèmes d'usage des sols, les systèmes alimentaires, les systèmes de transport, les infrastructures. Et c'est ça qu'il faut réinventer, et la façon de financer ces investissements-là, la façon d'organiser nos villes. Donc il y a une foultitude de disciplines qui regardent ces questions-là, dont la discipline économique, mais pas que, des collègues sociologues, anthropologues, regardent aussi ces questions-là.
Alors Patrice, qui nous a passé un petit coup de fil, demande, est-ce que vous ne pensez pas que la priorité aujourd'hui est de limiter les échanges commerciaux en instaurant une taxe carbone, si impopulaire en France, notamment dans les flux internationaux? Quel est votre point de vue sur cette question de la taxe?
Alors, je pense que ce dont il est question là, dans la question précise, c'est des ajustements aux frontières, notamment sur les imports. C'est particulièrement important pour cette question des imports pour la France,
ouais.
Parce que si on compte les émissions qui ont lieu sur le territoire et qu'on les rapporte à la population française, on est à peu près à 6,6 tonnes de CO2 équivalent par habitant. C'est un petit peu au-dessus de la moyenne mondiale. Mais si on corrige ça des imports-exports...
Mais on peut le faire véritablement? Alors, on peut avoir une main sur les importations?
Je veux juste redonner l'enjeu des ordres de grandeur. Si on corrige ce chiffre-là des imports-exports, donc on enlève en fait les émissions qui ont lieu sur le territoire... pour produire des biens exportés et qu'on ajoute des émissions qui ont lieu ailleurs pour des biens qu'on importe, on n'est plus à 6,6, on est à 11 tonnes de CO2 par habitant.
Alors c'est comment on agit pour faire baisser ça?
Beaucoup plus. Et il y a effectivement une des pistes, c'est de regarder la question des ajustements aux frontières, qui est pas facile. Techniquement, qui n'est pas facile à concilier avec les accords sur les accords de l'OMC, mais c'est une des pistes.
Question de Damien sur Facebook. Peut-on vraiment agir sur le climat alors que les États-Unis, deuxième pollueur au monde, on le rappelle, sortent de l'accord de Paris?
Les États-Unis sont un poids lourd, mais représentent finalement que 13%. Des émissions mondiales, loin derrière la Chine, 25%, et un tout petit peu devant l'Europe, qui représente 10%. Et puis, les États-Unis qui sortent de l'accord, ça ne veut pas dire que sur le territoire, il n'y a pas des actions des États, des États-Unis, des villes, etc. Et donc, il ne faudrait pas prendre comme prétexte, finalement, de se dire on a un acteur, certes majeur, qui, au niveau de l'État fédéral, est loin d'être moteur sur le sujet, et même à l'inverse. Mais il ne faudrait pas prendre ça comme prétexte pour se dire donc, on ne fait rien.
D'ailleurs, les États-Unis sont présents aujourd'hui à la COP25 à Madrid. De quelle façon, d'ailleurs, est-ce qu'ils sont là?
Alors, je sais qu'il y a une délégation, puisqu'ils ne sont pas encore sortis. Ça interviendra l'an prochain. Par contre, je ne sais pas exactement quelles sont leurs lignes de négociation.
Mais il y a une présence quand même des États-Unis qui est importante. Merci beaucoup Céline Guivarch d'être venue aujourd'hui nous permettre de décrypter un petit peu mieux les enjeux de cette COP25. Et puis bien sûr, on aura largement l'occasion d'en reparler pendant tous ces jours à venir. C'est jusqu'au 13 décembre, donc à Madrid. Juste après les infos, nous partons pour la forêt camerounaise avec le premier reportage de Célia Kiré.
La Terre au carré.
Et au menu de cette deuxième demi-heure, on parlera d'un documentaire Nouvelle Cordée signé de la journaliste Marie-Monique Robin. L'histoire de l'expérimentation Territoire zéro chômeur de longue durée, c'est tout à fait passionnant. Ça a été lancé dans l'agglomération de Mauléon dans les Deux-Sèvres en 2015. Mais pour le moment, nous partons pour le Cameroun avec votre série de reportages, Célia Kiray. Alors que justement, on en parlait, la COP25 s'ouvre tout juste à Madrid. Eh bien, le Cameroun a pour objectif de planter 2 millions d'arbres par an pour lutter contre la déforestation. Ce pays est en effet situé dans le bassin du Congo. C'est la deuxième forêt de la planète. Et pour la protéger, il faut déjà apprendre à préserver les arbres. Même l'école nationale des eaux et forêts se reforme. Elle devient une école de préservation de la forêt. Et vous nous y emmenez, Célia.
Oui, direction Mbalmayo, dans cette école située au sud de la capitale, Yaoundé. Et dans cette école, il n'y a pas seulement des salles de classe, mais surtout une grande forêt avec une centaine d'espèces d'arbres, des essences différentes. C'est très agréable, on entend les oiseaux. Mmh. Et en effet, cette école qui forme 250 étudiants chaque année change de dogme. Elle veut apprendre aux jeunes à protéger les arbres au lieu de les détruire. C'est un virage à 180 degrés. Elle ne veut plus être simplement une école de bûcherons qui prépare les hommes à couper les arbres pour vendre et exporter du bois dans le monde entier. Aujourd'hui, c'est une école de préservation de la forêt et elle prépare les jeunes à de nouveaux métiers, pépiniéristes, prospecteurs de nouveaux arbres, analystes d'images satellites ou encore calculateurs de CO2 pour savoir ce que la forêt peut stocker comme carbone. Bref, une révolution qui en dit long sur cette transition climatique que vit le pays en ce moment.
Ici, nous sommes toujours à l'intérieur, au sein du campus de l'École nationale des eaux et forêts.
Ici, c'est la pépinière. C'est plus une école de protection des ressources naturelles, pas seulement forestières, que d'exploitation anarchique de la forêt. Je suis Mbé Polycap, ingénieur des eaux et forêts. Je suis enseignant ici à l'École des eaux depuis 2012.
Il y a un enjeu aujourd'hui. Est-ce que les jeunes qui demain vont travailler dans les forêts protègent la forêt davantage qu'aujourd'hui peut-être, et en tout cas essayent de ne pas l'abîmer?
Maintenant, le remplacement des arbres qui ont été détruits est très important. C'est important à ce niveau d'avoir une pépinière et de pouvoir former des personnes efficaces au renouvellement de la ressource.
Qu'est-ce que vous avez comme arbre ici, par exemple?
Bon, ici, c'est le pin, le bengé, il y a le terminalia, il y a le bibinga, il y a le tec. On a plus de 100 espèces dans notre forêt-école. Oui, je m'appelle Neba Kingsley, je suis un botaniste.
L'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller prospecter dans la forêt pour mieux la connaître ou...
Oui. On forme les prospecteurs parce que pour estimer le potentiel, il faut d'abord connaître l'espèce. Et en fonction des espèces qui sont là, on peut calculer le taux de carbone stocké par chaque espèce. Donc tu pars en forêt pour regarder ce qui est là et tu peux amener les autres. Ça donne aussi l'emploi.
Comment vous vous appelez?
Armel Londé.
Qu'est-ce que vous avez comme formation?
Vérificateur en inventaire forestier. On vérifie si les exploitants ou bien ceux qui mettent les forêts en place ont respecté les normes déjà, parce qu'il y a un diamètre pour chaque essence qu'on doit respecter.
Est-ce que vous êtes un peu la protectrice de la forêt?
Si on peut dire ça. La forêt est vraiment menacée et c'est un réel problème qu'on rencontre en Afrique, au Cameroun en particulier, on rencontre vraiment ce problème. L'exploitation illégale a pris le devant. J'imagine mettre mes bottes, ma tenue de terrain et aller en forêt, même si c'est fait une semaine, deux semaines, voir comment les choses se passent et bon, en tirer des conclusions. C'est un nouveau métier pour moi.
Moi, c'est Lomio Drefongon, technicien des eaux et forêts, spécialiste en prospection forestière. Prospecteur, ça consiste à savoir ce qui se trouve véritablement en forêt pour mieux gérer la forêt. Pourquoi faire tout ça? Pour protéger non seulement la forêt mais aussi l'environnement, pour réduire le taux de gaz émis dans l'atmosphère.
Ça veut dire que vous allez être capable de calculer combien un arbre ou une forêt peut stocker de carbone?
On peut le faire. Par exemple, on utilise la hauteur, le diamètre des arbres. Ça prend beaucoup de temps pour faire cela.
Mais c'est nécessaire.
C'est nécessaire. Parce qu'il ne faut pas simplement exploiter aujourd'hui, il faut aussi regarder demain.
C'est un rêve pour vous de vous occuper de la forêt comme ça, de la protéger?
Bien entendu, parce que sans la forêt, nous ne sommes rien. Et on doit aussi planter plus d'arbres. Oui, il y en a les espèces qu'on ne connaît pas. C'est pourquoi nous sommes formés en tant que prospecteurs pour aller apporter ces informations à l'administration. C'est notre rôle de prospecteur.
Là, vous espérez trouver du travail maintenant?
Bien entendu, nous cherchons. Avec la famille qui grandit, c'est pas facile. Je suis maman.
De combien d'enfants?
Un enfant. bientôt 2. Hein.
Comment vous voyez l'avenir du Cameroun? Qu'est-ce que vous vous dites pour plus tard?
Pour plus tard, le Cameroun, je le vois émerger. Comme notre président l'a dit, en 2035, ça doit être émergent.
Il y a beaucoup de femmes forestières au Cameroun?
Oui, il y en a plusieurs.
Pour moi, la foresterie, je l'aime et je pense que toute femme devait s'intéresser à ce métier. La femme a sa place dans toutes choses. La forêt, déjà, c'est fondamental au Cameroun. Elle doit être protégée, elle doit être pour la femme comme un bébé, donc la protéger et savoir quoi en faire. Donc, on doit faire notre part pour apporter notre pied à l'édifice.
Voilà, et justement, vous avez rencontré des jeunes femmes, Célia. Il y a beaucoup de filles qui sortent de cette école.
Oui, c'est un début, en effet. 30% des élèves de l'école des eaux et forêts sont des jeunes femmes, de futures gardiennes de leur forêt. Mais ce n'est pas toujours facile, après, de trouver du travail au Cameroun. Il y a à peine plus de 50% d'insertion. Elles multiplient souvent les petits boulots en attendant un meilleur emploi. En tout cas, cette reconversion de l'école est censée préparer l'avenir du pays, même si l'industrie du bois reste très juteuse. C'est un des secteurs clés au Cameroun.
Et demain?
Demain, nous reprenons la route et nous changeons de région, de paysage, direction l'ouest du Cameroun, sur les hauts plateaux, à Tonga et Bangangté, où les maires se battent pour replanter des arbres et tenter de lutter contre la déforestation, et ce n'est pas simple.
Merci Célia Kiret, reportage à réécouter évidemment sur la page de la Terre au Carré. À demain. En raison d'un appel à la grève émanant d'une organisation syndicale représentative de Radio France, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser. On se retrouve dans un instant avec notre invitée Marie-Monique Robin.
The word is about, there's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating.
Vous êtes sur France Inter, dans la Terre au Carré. Dans un instant, notre invitée découverte est la journaliste Marie-Monique Robin pour un documentaire Nouvelle Cordée qui est actuellement au cinéma.
Est-ce que c'est assez ou suffisant? Est-ce que c'est assez puissant pour te retenir ici-bas avec moi, pour te maintenir intact en état?
C'était Magenta.
La Terre au Carré. Mathieu Vidard.
Bonjour Marie-Monique Robin.
Bonjour.
Bienvenue chez nous. Votre documentaire Nouvelle Cordée est sorti en salle mercredi 20 novembre et c'est une autre version du film Du Travail pour Tous qui avait été diffusé sur M6 dans le cadre de Zone Interdite. C'était en mars 2019. L'histoire de ce film, eh bien, c'est celle d'une expérimentation d'un territoire zéro chômeur. Ça se passe à Mauléon, dans les Deux-Sèvres, où il y a beaucoup de Robins d'ailleurs, on le découvre. C'est pour ça que vous êtes allé filmer là-bas d'ailleurs. Vous avez des racines
dans
le coin ?
Quand j'ai découvert ce projet en 2014, j'ai su qu'il y avait porté par Raté des Carmanges, j'ai su qu'il y avait quatre communes qui étaient associées et qui se battaient pour que ça puisse avoir lieu. Il y avait Mauléon dans les Deux-Sèvres et j'ai choisi la solution de facilité parce que c'est mon département d'origine. Et ça m'a permis d'avoir la confiance immédiate des chômeurs de longue durée. À l'époque, ils étaient tous au chômage et de filmer tout de suite.
Voilà. L'idée étant d'éradiquer le chômage de longue durée au travers de cette expérimentation. C'était presque un risque pour vous de filmer ça dès le départ en 2015 parce que vous n'aviez aucune assurance que ça allait aboutir. Ça a été au-delà de vos espérances, d'ailleurs, probablement.
Ah oui. S'il n'y avait pas de loi qui permettait cette expérimentation, il n'y avait pas de film. Donc j'aurais filmé 2 ans pour rien. Mais dès le début, je me suis dit, cette idée d'AT des Carmondes, elle est géniale. Si ça marche, ces hommes et ces femmes qui sont durablement privés d'emploi, eh bien, ils vont changer. Ils vont changer de tête. Et c'est ce qu'on voit, quoi. Moi, je suis toujours très émue quand je revois ce film, parce que je les ai connus vraiment très mal. Je les ai connus déprimés, malades, alcooliques, je peux le dire, parce que maintenant, ils ne le sont plus. Donc voilà. Et je les ai vus se transformer, se métamorphoser au fil du temps et devenir les acteurs de leur vie et de l'entreprise qu'ils ont co-créé.
C'est ça. Donc pour éradiquer le chômage, c'était l'idée d'abord de ce maire formidable de Mauléon, qui a d'ailleurs travaillé avec son prédécesseur, qui était son opposant politique, mais ils ont travaillé main dans la main pour arriver justement.
C'était son opposant, oui, tout à fait.
À créer cette entreprise qui permet justement de créer des emplois qui n'existent pas, mais dont on a besoin finalement. C'était ça l'idée aussi intéressante.
Voilà. L'idée d'ATD Carmonde, c'est de se dire que un chômeur de longue durée, ça coûte 18 000 euros par an à la France, si on tient compte de tout. Et bien plutôt que de dépenser cet argent pour maintenir dans la précarité ces hommes et ces femmes, il vaudrait mieux l'utiliser pour créer un emploi. Voilà. Et ils ont créé donc ce qu'on appelle une entreprise à but d'emploi. Son nom est bien clair. Oui. Le but, c'est de créer de l'emploi. Mais la loi qui permet cette expérimentation dit, attention, il ne faut pas rentrer en concurrence avec l'économie classique, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de détruire du travail en créant de nouveaux emplois. Et donc, ils vont développer toute une série d'activités qui répondent aux besoins non satisfaits sur nos territoires. Il y en a plein. Partout, dans le domaine de l'aide à la personne, le recyclage ou l'entretien des espaces verts. Et ils vont développer toute une série de petits travaux utiles, c'est l'expression qu'ils emploient, et qui font aujourd'hui travailler 90 personnes à temps plein payées au SMIC.
Et il y avait 200 chômeurs de longue durée à Mauléon au départ. Et aujourd'hui, il y a 90 personnes en plus qui sont
intégrées. Donc, tous ceux qui l'ont voulu ont été intégrés, parce que c'est volontaire. On n'est pas obligé d'y aller dans cette entreprise.
Et alors, du coup, est-ce que tout le monde, justement, a voulu, ou il y en a qui ont refusé?
Alors, il y en a qui sont très difficiles, on ne sait pas où ils sont en fait, c'est ça le problème, parce qu'ils ne sont ni à Pôle emploi, ils sont, par exemple, on ne sait peut-être pas, mais 30% des gens qui ont droit au RSA
ne le touchent pas.
Donc la difficulté, c'est d'atteindre ce public-là, mais tous ceux qui l'ont voulu, qui se sont mis sur la liste d'attente, ont été embauchés, aujourd'hui. Alors évidemment, ça change, parce qu'il y a de nouvelles personnes qui arrivent, mais il y a aussi des personnes qui quittent l'entreprise après s'être reconstruit et qui vont travailler dans l'économie classique. Il y en a environ une quinzaine à Mauléon, depuis la création de cette entreprise à but d'emploi.
Marie-Monique Robin, il y a trois idées au départ. C'est que personne n'est inemployable, c'est pas le travail qui manque et c'est pas l'argent qui manque. Et quand on est d'accord avec ça, on déploie une énergie extraordinaire.
Franchement. Moi, je leur tire mon chapeau, parce que tous ces hommes et ces femmes avaient tous 4-5 ans de chômage derrière eux. Soit parce qu'il y avait un accident du travail, un accident de la vie, un papa, par exemple, qui s'est retrouvé veuf avec deux petites filles en bas âge, ou un accident de la route, parce que souvent, ça veut dire handicap. Voilà. Et ils étaient mal, très mal. Et moi, j'ai vu comment, finalement, quand on leur fait confiance, eh bien, ils déploient une énergie extraordinaire, et puis ils se mettent à parler, ils se redressent, ils changent de tête. Enfin, c'est incroyable, quoi. Et ils développent aussi un nouveau modèle économique, en fait.
Et écologique aussi.
Écologique.
Parce que c'est pour ça que vous êtes là, quand même. Voilà, c'est pour nous parler d'écologie.
Mais d'ailleurs, écoutez, c'est amusant ce que vous dites, parce que moi, je suis quand même une écolo revendiquée. Et en rigolant, ils sont tous devenus des copains. Je leur dis, vous êtes tous devenus écolos. Parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, par exemple, que les palettes mono-usage qu'on utilise partout, elles sont broyées et enfouies. Eux, ils les récupèrent et ils en font de la matière première pour faire tout un atelier de menuiserie extraordinaire où ils font des petits poulaillers pour les citoyens, vous voyez. Ça, vous avez raconté ça déjà ici, ou alors des carrés potagers, enfin, etc., des tables, des chaises. Ils ont découvert que quand les menuisiers déposent des fenêtres pour mettre du triple vitrage, parce qu'on a une nouvelle réglementation d'isolation thermique, eh bien, elles sont broyées et enfouies parce que c'est pas rentable de recycler. Donc, ils ont passé un accord avec tous les menuisiers.
Tout le PVC est
PVC est récupéré, le verre est récupéré, le bois est récupéré. Mmh. Voilà. Ils se sont mis à faire un jardin partagé, évidemment. Ils sont tous mis à manger bio, alors qu'évidemment, quand on est au RSA, on mange pas bio. Et donc, c'est extraordinaire.
Donc, ça montre, justement, j'allais vous demander où était la place de l'écologie là-dedans. C'est un projet social et ça montre, quelque part, la dimension très transversale de la question écologique.
Tout à fait. On voit vraiment là le lien entre les fins de mois difficiles et la fin du monde, vous savez, dont on a beaucoup parlé. Et d'ailleurs, je voudrais citer une anecdote. Il y a un an, quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, j'ai appelé le maire de Mauléon et mes copains de l'entreprise. Je leur ai dit, alors, il y a plein de ronds-points dans les Deux-Sèvres, comme partout en France. Parthenay, Niort, Melle, les autres villes, il y avait des ronds-points occupés, pas à Mauléon. Et les salariés de l'entreprise m'ont dit, on en a parlé parce qu'ils ont beaucoup de travaux en commun, donc ils parlent. Mmh. Et on s'est dit, nous aussi on est SMICards, parce qu'ils sont payés au SMIC, ils ont un contrat à durée indéterminée payé au SMIC, mais on a une qualité de vie dans notre travail et on est au service du territoire et ça n'a pas de prix, vous voyez ? Donc c'est pas qu'une question de fin de mois difficile, vous voyez, c'est aussi de comprendre qu'on retrouve une place dans le monde.
On va écouter un extrait, évidemment, de ce film Nouvelle Cordée autour de la benne à tissu qui est aussi l'objet d'une activité importante.
Bonjour messieurs, dames.
Bonjour.
Là c'est une semaine de boulot, la benne là ?
Ouais, à peu près.
Et vous gardez que les bons morceaux de tissu ?
Les morceaux les plus importants qui pourraient nous servir à la fabrication après.
Bonjour. On les récupère et puis après les filles font des sacs avec.
L'Abène, c'est une des références de l'ESIAM parce que c'est le début de l'ESIAM. C'est trouver du travail, quelque chose que personne ne fait, et en plus, à but écologique. C'est une benne, en fait, que l'on récupère d'une entreprise de confection locale. Ce sont que des déchets qui comportent du papier, du plastique et du tissu. En gros, il y a une benne tous les 3 mois.
Le fait de trier permet de recycler. Alors que quand ça reste en mélange, ça part en enfouissement. C'est un gaspillage incroyable. Vu les heures de travail, il y a peu d'entreprises qui, aujourd'hui, peuvent rentabiliser un boulot comme celui-là.
Voilà, l'ESIAM, c'est le nom de l'entreprise, donc à Mauléon. D'ailleurs, on voit à quel point l'écologie et le social sont intimement imbriqués. Hein. On en parle dans cette émission, mais on peut pas parler de l'un sans l'autre, finalement.
Ah, absolument pas, c'est assez clair. Et même, vous savez, il y a un mot qui revient souvent, c'est déchets. Hein. Les déchets, bon là, on vient voir un exemple. Hein. Et Sébastien, qui a eu un problème de handicap à la suite d'un accident du travail, n'est-ce pas, il dit, moi, je suis pas un déchet. Mais vous voyez, dans ce monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, si on va dans le mur, c'est parce que il y a des déchets partout. Il faut qu'on arrête de les produire. Il y a des déchets aussi, enfin, humains, entre guillemets.
Bien sûr.
C'est-à-dire, dans ce modèle, c'était des déchets. Le modèle dominant économique, ils étaient des déchets. Et comme ils disent, ils ne sont pas des déchets. Et donc, ils font eux-mêmes très facilement. Et c'est extraordinaire de voir la qualité de parole de ces hommes et ces femmes qui étaient muets et invisibles. Qui se transforment. Ouais. Et qui parlent d'écologie. Et qui font le lien entre la qualité de vie sur le territoire, le lien social qu'on crée dans la commune. Et le travail qu'ils font, quoi. Voilà, au service de l'intérêt général. Et je trouve que c'est une belle expérimentation. Et il serait vraiment dommage qu'elle ne se poursuive pas.
Et est-ce qu'ils sont sensibles aux enjeux plus globaux en ce qui concerne la question environnementale?
Ah ben, vous avez entendu peut-être dans le film Sébastien, par exemple, qui dit mais on peut pas continuer comme ça. Hein. La planète est en train de se dégrader. Et nous, avec nos petites solutions à petite échelle, on peut promouvoir un autre modèle, une autre manière de à la fois de produire, de consommer.
Un autre système.
Mmh. Et c'est eux qui ont déployé cette réflexion. Je veux dire, c'est pas moi qui l'aurais dit pendant les 4 ans de tournage, puisque j'ai filmé pendant 4 ans. Il faut être écolo, vous voyez. Ça est venu. Dans le film, ils disent que leur entreprise marche à l'envers, parce qu'ils embauchent d'abord et ensuite ils cherchent du travail. Mais moi, je pense que c'est le monde actuel qui marche à l'envers et eux, ils sont remis à l'endroit. Et on le voit. Ils sont remis à l'endroit et ils vont bien. Et puis, ils font le lien entre la situation, comme vous le dites, globale. On est quand même dans une impasse terrible, hein, nous, l'humanité, hein, et leur situation personnelle. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un film qui est à la fois une ode à l'écologie et à l'économie sociale et solidaire.
Comment on peut essayer d'aller plus loin? Là, on a une expérimentation à l'échelle d'une région, d'un village.
Oui.
Comment est-ce qu'on peut imaginer que cette expérience sur le chômage longue durée puisse aussi essaimer ailleurs?
Alors, pour l'instant, il y a 10 territoires qui sont engagés dans cette expérimentation. Donc, il y a un quartier du 13e arrondissement à Paris, par exemple. Et on attend une deuxième loi pour pouvoir poursuivre cette expérimentation sur ces 10 communes, ces 10 villes, et ensuite l'étendre à d'autres territoires. Et on a 180 villes actuellement qui sont volontaires. Mmh. Et on attend que cette deuxième loi passe au Parlement rapidement.
Nouvelle corde, et c'est donc au cinéma. Il faut repérer les salles près de chez soi en France. On va sur Allociné pour avoir justement la carte. En tous les cas, vous serez ce soir près de Limoges à Nexon. Mmh. Hein, ce sera dans la salle
Georges Méliès à 19h30.
Pour une rencontre avec vous, Marie-Monique Robin. Et puis le 13 décembre à l'UGC Ciné-Cité à Paris dans le 19e. Avec un débat en compagnie de Colline Serrault.
Ouais.
Il faut aller voir Nouvelle Cordée, c'est un film qui fait beaucoup de bien, je dois dire. Merci beaucoup d'être passé aujourd'hui dans La Terre au Carré nous en parler. À bientôt, bonne journée Camille.
À demain, bon après-midi.